Bonjour, bonjour, c'est Marion Broc, psychologue du travail, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de conversation de psychologie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du burn-out. Pourquoi ce sujet ? Eh bien, je dirais que c'est d'actualité pour moi parce que je reçois pas mal de demandes en ce moment sur cette thématique. Et si je reçois autant de questions sur le burn-out, c'est que finalement, ce terme n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Le burn-out est devenu, depuis ces dernières années, un des gros sujets de conversation, que ce soit en entreprise ou dans les médias. C'est un terme très utilisé dans le langage courant et par tous. Alors, est-ce que c'est un durcissement des conditions de travail, un changement dans notre relation au travail, un déliement des langues sur le sujet ? Ça, je ne saurais vous répondre. Il n'en reste pas moins être un sujet de mésinformation et l'utilisation du terme « burn-out » est clairement, largement galvaudé et utilisé parfois à toutes les sauces. En effet, combien d'entre nous entendons une personne se sentir mal au travail utiliser ce terme pour décrire sa détresse professionnelle ? Or, les souffrances liées au travail sont loin d'être automatiquement des burn-out. Alors, évidemment, vous me voyez venir, j'ai décidé d'en faire un épisode pour éclaircir tout ça. Alors, commençons par une petite définition de ce qu'est le burn-out. Donc le burn-out est un terme anglais pour parler de ce que nous, les Français, appelons le syndrome d'épuisement professionnel. L'idée générale de ce terme en anglais, c'est de faire la référence au fait d'avoir été cramé par son travail. Un poil violent quand même comme expression, ou peut-être réaliste en fin de compte, car il est indéniable que le burn-out laisse dans son sillage une énorme détresse pour celui qui le subit. Si le terme en anglais est assez représentatif de ses effets, les termes dans la langue de Molière ont l'avantage d'être explicites sur sa définition. Il s'agit d'un syndrome, et non donc pas d'une maladie, qui épuise et trouve son origine au travail. Le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà, c'est QFD, quand on le dit en français, on comprend, on a toutes les infos. Cet épuisement, qui caractérise tant le burn-out, est un épuisement en plusieurs dimensions. En effet, il s'agit d'un épuisement physique, émotionnel et mental. À ces différentes dimensions d'épuisement, nous pouvons ajouter la dimension temporelle, car il s'agit également d'un épuisement qui résulte d'une situation où le salarié a été exposé au stress de manière prolongée. Ça peut se compter en semaines, ça peut se compter en mois, et même c'est pas rare du tout que ça se compte en années. Ce sont bien ces caractéristiques qui vont permettre de réaliser la distinction entre un burn-out et d'autres types de manifestations cliniques comme une dépression par exemple. Alors, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est différent d'une maladie car ses symptômes et ses manifestations sont différents d'une personne à l'autre. En revanche, les symptômes trouvent forcément leur origine dans un même lieu, celui du travail. Ça ne concerne que le travail. Bien sûr, on peut ajouter des problématiques personnelles à sa situation qui vont effectivement nourrir le mal-être, mais l'origine est liée au travail. Les symptômes trouvent donc leur origine dans l'exposition prolongée au stress qui est due aux exigences du travail. Donc le burn-out est le résultat d'un processus de fatigue qui s'installe dans le temps. C'est pas du tout une situation figée, c'est vraiment le résultat d'un processus de longue traîne et c'est certainement ce qui permet au burn-out de s'installer comme ça de manière insidieuse, quasi incognito, en fait on ne voit pas arriver. Il y a toujours en fait des signes avant-coureurs et des choses qui auraient pu mettre la personne sur la voie en fait de l'anticipation du burn-out, mais en fait ces signaux sont passés inaperçus. Le burn-out, il s'installe pas si incognito que ça, mais pour la personne en fait qui le subit, elle a pas vu les signes, voilà, tout simplement, ou elle a pas su comment réagir, et pour elle, il s'est installé comme ça dans le temps. Il y a donc plusieurs étapes qui conduisent au burn-out, à l'épuisement professionnel. Et donc la première étape, c'est l'étape où tout va bien, ça roule au travail, enfin normal, il y a des hauts, il y a des bas, mais en gros, tout va bien. La seconde étape, c'est quand on commence à entrer donc dans du surmenage. Le surmenage s'installe et là, effectivement, la fatigue associée, ça veut dire que je me lève le matin et que je suis fatiguée. et ça fait plusieurs semaines que je me sens fatiguée. Cette deuxième étape, elle est souvent accompagnée de pensées récurrentes liées au travail. Ça occupe nos pensées. Et c'est plus la fatigue qui s'est installée, on commence à faire des étourderies, on commence à avoir un changement d'humeur, on commence à être irrité plus facilement. Ça peut être aussi le sommeil qui est modifié de différentes manières, soit la difficulté d'endormissement, soit des réveils nocturnes. Et puis on peut avoir aussi des symptômes du type migraine, tension musculaire, mal de dos, mais on se dit... je suis fatiguée, mais j'y retourne, c'est normal, ça fait partie du travail, c'est comme ça, je vais prendre sur moi, et puis je vais résister, parce que il faut bien que j'aille au travail. Donc ça, c'est l'étape du surmenage. L'étape suivante, c'est quand en fait, on va essayer de tenir le max, qu'on va appeler la phase d'acharnement. On va se dire, oui, je suis fatiguée, mais tant pis, je lutte, je résiste pour être tous les jours sur le pont au travail. Je veux pas lâcher, mes collègues comptent sur moi. Ou alors j'entends aussi, moi je suis pas du genre à être en arrêt maladie, même si je suis fatiguée depuis des semaines. Moi j'ai la valeur travail, ça c'est ce que j'entends régulièrement. Donc je veux pas m'arrêter. Ou alors, mais je suis fort, je vais résister, etc. Les vacances, c'est bientôt, je me reposerai à ce moment-là. Donc, même si en fait la personne, elle voit bien qu'elle perd un peu de ses moyens du fait de la fatigue, elle veut absolument aller au travail, elle s'en fait en fait une responsabilité, un point d'honneur, et elle considère pas que son état de fatigue est une altération de sa santé en fait. Hein. Donc, ou en tous les cas, même si elle le remarque, elle veut tenir absolument. Souvent, il y a quand même aussi les premiers symptômes, on va dire, de l'altération cognitive, c'est-à-dire on voit des oublis, des problèmes de concentration, on voit bien qu'il y a une baisse d'efficacité, mais ce que la personne veut, c'est être là, en fait. L'entourage commence en général à faire aussi des petites remarques, dire « t'es un peu à cran » ou remarque qu'il y a un peu d'irritation. Mais l'idée, c'est que la personne, elle veut rester à son travail. Comme elle voit bien quand même cette personne qu'elle est moins efficace, eh bien elle peut aussi avoir tendance à rallonger ses horaires de travail. Arriver un petit peu plus tôt ou finir plus tard, parce que comme en fait on n'atteint pas son top d'efficacité, on va essayer de récupérer en fait ce qu'on n'a pas produit en rallongeant des heures de travail. Et puis, ça génère aussi de l'insatisfaction, parce que on s'en sort plus, en fait. On est fatigué, mais d'un autre côté, on travaille plus, donc en fait, on en a marre, quoi. Voilà. L'étape suivante, c'est le fait d'être épuisé physiquement, émotionnellement et mentalement, et on se dit que c'est de la faute de l'entreprise. Là, souvent, la personne, elle devient vindicative sur le sujet. Elle commence en fait à critiquer son travail, on appelle ça le cynisme. Ça, c'est vraiment un marqueur fort de l'épuisement professionnel, le cynisme. La personne, elle dit, mais c'est clair, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette organisation, personne ne fait rien pour m'aider, personne ne fait rien sur cette situation. Et là, en fait, la personne, elle commence à être à bout, hein, elle commence à être en train de s'effondrer, et là, elle pense à s'arrêter. Souvent, il y a de l'isolement aussi. Hein. Cette personne-là, elle a besoin de se repli sur soi, de ce sentiment d'avoir besoin d'être seule, en fait, comme si elle pouvait se ressourcer de cette manière-là. Et là, effectivement, on voit un vrai repli, c'est-à-dire moins de pauses, moins de sorties, moins d'envie de voir des gens, etc. Et c'est vraiment l'impression de la chute hein, pour celui qui le vit. La personne, en fait, elle a vraiment le sentiment d'être coincée dans sa situation, de pas du tout avoir de porte de sortie. C'est vraiment, elle ne sait pas comment faire et donc, elle résiste, en fait, encore. Elle ne voit pas d'autre solution que de résister. Ce qui l'amène à l'étape suivante, si jamais il n'y a pas d'arrêt avant, c'est le plein burn-out, là. C'est l'expression du burn-out. Donc, la personne veut s'en sortir, elle veut que ça s'arrête, elle est épuisée. Elle a complètement conscience qu'elle est au fond. Souvent, il y a une dévalorisation importante, elle se sent nulle, une culpabilité de cet état, une honte de ne pas réussir à tenir. une sensation d'être incompétent aussi, hein, avec les oublis. Il y a un manque de créativité qui s'installe parce que ben, y a trop de fatigue, moins de productivité, de la procrastination. Enfin, voilà, on est vraiment dans un cercle en fait qui conduit la personne à être moins efficace. Ça atteint l'estime qu'elle a d'elle. En plus, elle a plus de ressources, elle est vidée, elle se sent coincée, elle s'est souvent isolée. Et donc là, effectivement, si c'est pas le corps qui lâche d'une manière ou d'une autre, là, on est à l'arrêt maladie, parce qu'il n'y a plus le choix, en fait. Il y a un moment donné, on sent qu'il n'y a plus le choix et on s'arrête. Alors, concernant les symptômes, chacun à sa manière développe des symptômes. Il n'y a pas un schéma figé non plus de ce à quoi ressemble un burn-out. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas une maladie, mais bien un syndrome. Mais globalement, il y a des manifestations fréquentes de certains symptômes. Donc, comme je le disais, les troubles du sommeil. La fatigue, ça c'est obligatoire. Enfin, il y a toujours de la fatigue dans un burn-out. C'est vraiment de la fatigue chronique. Ça peut être aussi des douleurs, des maux de dos, des douleurs chroniques de tout type, des migraines, des vertiges. Des troubles ORL, acouphènes, des troubles digestifs, des maladies de peau, des troubles dermatos. Au niveau professionnel, la baisse d'efficacité aussi, qui conduit à l'hyperactivité, c'est-à-dire vouloir compenser en fait la baisse d'efficacité par des horaires étendus, de l'agitation en fait. Il y a aussi parfois de la procrastination, c'est-à-dire on sent qu'on n'y arrive pas, donc on va essayer d'éviter le dossier hyper compliqué, hyper pointu, puis on le fera quand on sera au pied du mur, quoi. Au niveau émotionnel, l'irritabilité, ça c'est clair, l'impatience, voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps, il faut aller vite, on n'a plus le temps de tout faire, donc il y a une impatience qui s'installe. La frustration, la tristesse, le cynisme aussi. La perte de confiance, l'isolement, les pensées envahissantes, les ruminations. Au niveau émotionnel, il y a pas mal de manifestations. Et puis au niveau cognitif, comme je le disais aussi, des troubles de l'attention, des problèmes liés à la mémoire, des oublis, des difficultés à se concentrer. Un ralentissement aussi dans la réalisation des tâches. Donc, il y a pas mal de symptômes, en fait, de manifestations qui mettent la puce à l'oreille, justement. Alors, quand on les connaît bien, on peut les prendre dès leur apparition, en se disant, là, je sens que c'est la manifestation d'un problème. Mais quand on prend sur soi en continu, c'est là que ça conduit, effectivement, à l'épuisement de toutes ces ressources et ce qu'on appelle le burn-out. Alors, pour s'en sortir, comment est-ce qu'on peut se sortir du burn-out ? Donc, lorsqu'une personne est en situation d'épuisement professionnel, il faut garder en tête qu'elle a le sentiment de ne pas avoir d'issue à sa situation. Pour elle, elle est coincée. En plus, il y a souvent une incompréhension donc concernant la situation globale. Et en général, les premières questions, elle se demande avant tout comment est-ce qu'elle a pu en arriver là ? Comment, en fait, j'en suis arrivée là ? L'isolement engendré par la situation, la perte de l'estime de soi, la fatigue, la perte des moyens vont augmenter aussi la difficulté à remonter la pente, clairement. Donc la première des choses, c'est récupérer. Ça, c'est essentiel, il faut se reposer. Prendre le temps nécessaire pour récupérer, ça c'est important. Pour certains, cette phase de récup, elle semble interminable, tellement elle peut être longue, mais elle est obligatoire. C'est pas du tout anormal qu'elle dure des semaines et des mois. On le voit très très souvent, donc je vous le dis tout de suite, il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est normal. Quand on allait puiser à fond dans ses ressources, il faut les restaurer. Il faut faire remonter cette jauge et ça passe par le repos. Et il faut l'accepter, intégrer, récupérer. Quand on a tiré à fond sur ses ressources, ça prend du temps. Voilà, ça se compte en minimum en semaines. Ensuite, moi je conseille la phase de compréhension. Une fois qu'on a récupéré, on a beaucoup plus de ressources pour pouvoir comprendre et analyser ce qui s'est passé. On ne fait pas une phase d'analyse quand on est au fond du trou et qu'on est complètement épuisé de tout. Il faut d'abord avoir récupéré pour pouvoir entamer la phase d'analyse et de compréhension en fait de ce qui s'est passé. L'idée, c'est de se demander quelle est la face invisible de l'iceberg. Parce que la face visible de l'iceberg, on la connaît. Voilà. On sait ce qui s'est passé au travail, pourquoi j'ai été en surcharge. On connaît les facteurs externes, en fait. Mais la face invisible de l'iceberg, c'est les facteurs personnels, les facteurs interpersonnels. En général, ça, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès. La question centrale, en fait, que vous devez vous poser, mais c'est qu'est-ce que vous avez donné en trop et qui n'était pas du tout obligatoire? Est-ce que c'était trop d'investissement? Est-ce qu'il y avait trop d'attentes? Est-ce que c'était une recherche de trop de perfection? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris trop de missions qui n'étaient pas au départ sur la fiche de poste? Est-ce que c'est trop de non-dits qui ont été gardés pour soi? Et ce trop doit changer. Si vous retournez au travail sans avoir changé quelque chose, la situation, elle va recommencer. Hein. Si on n'a pas agi sur la situation, sur le global, ça c'est sûr que ça recommencera. Donc il faut travailler sur cette question du trop et développer une nouvelle perception du travail. Vous allez mettre le travail à sa juste place, à celle qui vous convient. Et cette étape, elle est obligatoire absolument. Une fois qu'on comprend ce qui nous a conduit à faire ce trop ou à accepter ce trop, on est en mesure de décider. De décider des nouvelles perspectives qu'on va pouvoir se permettre de mettre en place dans notre futur professionnel. On va se décider à fixer un nouveau cadre, à mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut tout à fait se faire en restant dans l'entreprise où on était, hein, mais parfois, certains ont vraiment besoin de tourner la page et d'aller voir ailleurs et de faire ce nouveau ailleurs. Ça, on ne peut jamais savoir au départ d'un travail comment ça va, quelle sera l'issue en fait. Hein. Et puis après avoir décidé, bah, c'est le passage à l'action. Là, une fois qu'on a en tête la manière dont on va faire les choses, bah, là, il est temps de se lancer. La reprise, clairement, elle doit être sécurisée. Il faut être vigilant. Ou adapter la reprise pour qu'elle soit progressive. Le tout pour éviter en fait de rechuter hein, et de refaire la même chose. À l'issue, vous ressortez grandi et vous avez appris plein de choses sur vous-même. Votre vision du travail évolue, votre vision de vous-même dans le travail évolue. Vous n'êtes plus du tout dans la même dynamique après de l'avant et en fait c'est tant mieux pour vous. Voilà. Donc si vous êtes, vous, dans cette situation d'épuisement, peu importe la phase hein, où vous êtes, mais si vous sentez voilà, que vous courez vers la chute, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un psychologue du travail pour passer ce cap. Vous gagnerez un temps précieux et surtout une qualité d'analyse sur votre situation. Parce que le burn-out, c'est comme un iceberg. Il y a vraiment une phase visible qui concerne le contexte organisationnel, et une face invisible qui concerne vos valeurs, vos besoins, vos compétences, vos schémas d'adaptation. Autant d'informations difficilement accessibles pour un non-expert ou même par une introspection personnelle. Donc je vous rassure tout de suite, on se sort du burn-out. Ça, je le vois et je le constate et j'en ai vu tellement rebondir de manière hyper constructive à la suite d'un épuisement. Donc ça, l'issue positive, elle est complètement possible, mais elle se fait pas toute seule, sans effort et sans un travail personnel et accompagné par un professionnel. Donc je peux que vous encourager vraiment à ne pas rester seul. Peut-être ça peut être d'abord votre médecin de famille, peut-être ça peut être l'infirmière qui est sur site, ça peut être la médecine du travail, ça peut être des représentants du personnel, ça peut être un collègue, un manager, un service RH. Identifiez autour de vous les personnes qui pourraient être les plus à même de vous conseiller. Les plus à même de vous guider en fait vers un expert qui puisse vous aider. Et voilà, c'est la fin de notre épisode sur le burn-out et vous avez maintenant une vision globale du processus qui se met en action dans le temps et qui caractérise ce syndrome. N'oublions pas que cela peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri effectivement du syndrome d'épuisement professionnel. Soyez à l'écoute des signes précurseurs de votre fatigue. Réalisez qu'une fatigue chronique, donc c'est-à-dire une fatigue qui s'installe dans le temps, dans laquelle on ne se sort pas, doit être un facteur qui vous alerte. Ça, c'est la première chose. Et puis après, repensez à tous les signaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Restez vigilant, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et parlez-en pour ne pas rester seul face à cette situation. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a aidé, vous, si vous avez connu l'épisode du syndrome d'épuisement professionnel. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt au prochain épisode.